Salut, salut, on est en direct de l'Omnium Bank National ici au stade IGA. Moi et Hugues, on est en direct du studio Mazda des sources du groupe Delary sur la galerie de presse du stade IGA. C'est petit mais très confortable et c'est surtout la meilleure vue en ville pour voir les matchs. Comment te portes-tu, mon cher Hugues Léger?
Très bien, on tient le rythme de cette Omnium Bank National qui s'est terminé très tard hier soir avec la défaite de Tsitsipas, mais on est choyé d'être là les premiers tous les jours dans le stade IGA pour vous amener toutes les nouvelles du tournoi. Donc très content d'être là. Puis effectivement, notre studio, c'est un bonheur là, de surplomber le central et d'avoir toutes les émotions à chaque minute de cette semaine.
Ouais, exact. On est pas mal tout le temps les premiers sur le site. Il n'y a pas grand monde quand on est quand on arrive. Que voulez-vous? On est passionné, c'est ça. Hein? Quand on tripe sur ce qu'on fait, on est choyé d'être ici à l'Omnium Bank National. On remercie aussi puisqu'on y est le support de Tennis Canada et de l'Omnium Bank National qui nous permet d'être là et de travailler en collaboration avec eux. L'Hôtel Montville aussi qui est avec nous depuis le début, puis Mazda des sources qui travaille avec nous pour l'Omnium Bank National. Nico n'est pas là, c'est pas clair s'il va se joindre à nous. S'il est là, on le prendra. Sinon, c'est bien correct parce qu'il est en congé aujourd'hui pour la presse. Et Hugues, on aura Andréane Martin. Peut-être nous faire un petit profil d'Andréane Martin avant qu'on passe au sujet du jour. On va la recevoir un peu plus tard à l'émission.
Oui, une invitée de marque, Andréane Martin, qui a été nouvellement nommée directrice générale de Tennis Québec. Ancienne championne canadienne, Andréane, une excellente joueuse de tennis, une coach aussi de haut niveau et quelqu'un d'extrêmement sympathique. Là, moi, j'apprécie beaucoup Andréane, on se connaît depuis un bon petit bout de temps. Tennis Québec, beaucoup de changements en ce moment. On a parlé avec Régent Genois, qui était le président du CA sortant après 33 ans à la tête de Tennis Québec. Jean-François Manibal, qui est l'ancien DG, a aussi tiré sa révérence un peu plus tôt cette année. Un tout nouveau conseil d'administration. Donc, Andréane pourra nous parler de ça. Des grands chantiers qui l'attendent aussi, du rôle et de la mission de Tennis Québec qui évolue aussi dans le contexte actuel. Donc, très invité de Marc ce matin avec nous, Andréane Martin.
Wow, on est chanceux d'avoir ce type d'invité-là. Alors, on ne perdra pas de temps pour faire notre résumé de ce qu'on a vu hier, Hugues, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions, autant à Montréal qu'à Toronto. On a un programme chargé aujourd'hui, alors on va faire ça en rafale. D'habitude, on prend beaucoup de temps pour faire ces analyses. Aujourd'hui, on va faire ça en 15-20 minutes. De toute façon, l'épisode du Café OBN en général est écourté par rapport à l'épisode hebdomadaire. Alors, Hugues, premier commentaire, parlons de Félix Auger. Aliassime, ton analyse de ce match-là hier?
Oui, un match qui nous faisait un peu peur. On sait que Félix, ses entames de tournoi sont un peu compliquées des fois. Il avait un adversaire quand même de calibre hier en Nishioka. Nishioka qui avait une fiche gagnante contre Félix. Donc, on était un peu, je ne dirais pas anxieux, mais on avait très hâte de voir comment il sortirait. Il est sorti très fort. Très bonne première partie de service. On voyait qu'il était en mode attaque. Mais rapidement, par contre, les fautes directes, les doubles fautes se sont insérées dans son jeu. Ça a été plus compliqué. Il a quand même réussi, porté par la foule, à gagner le premier set en tie-break. Et ça a été mieux au niveau du deuxième. Et ça s'est un petit peu rétabli au niveau du service. Et il a pu quand même rapporter ce match-là. Mais on voit que ici, il l'a aussi dit en conférence de presse, il est un peu fatigué, il a été porté par la foule, ça l'a beaucoup aidé. Mais c'était un match piège un peu, et il est passé à travers. Et je pense que le reste du tableau pour lui devient pas plus facile, mais bon, dans un contexte où les trois premiers favoris ont été sortis hier, on va en reparler plus en détail évidemment, Félix est en bonne position pour la suite.
La bonne nouvelle dans le cas de Félix Auger et Aliassime, c'est qu'on a vu son niveau de jeu augmenter tout le long du match. Comme tu dis, c'était un peu plus, entre guillemets, shaky au début du match, particulièrement au service. Les statistiques au service n'étaient pas nécessairement bonnes. Ouais. Mais au deuxième set, on l'a vu embarquer en deuxième vitesse et prendre vraiment le contrôle de ce match-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Beaucoup plus à l'aise parce qu'il gagnait son service facilement. Il y a eu plusieurs jeux à 40-0 sur son service. C'est plus facile d'attaquer ton adversaire pour aller chercher le bris après. Donc, on voyait qu'il était plus relâché dans le deuxième. Ça a été un match qu'il a conclu sans trop de problèmes, mais une belle opposition quand même de Nishioka.
Et là, on doit s'attendre à quoi du côté de Félix contre Cameron Norrie?
Cameron Norrie, c'est écoute, dans un Masters 1000, il n'y a pas de match facile. Quand on parle d'un tableau favorable, on ne parle pas d'un tableau facile, évidemment. Donc, Cameron Norrie au deuxième tour, qui est le tombeur de Félix il y a une semaine à Los Cabos en demi-finale. Norrie a perdu contre Medvedev en finale à Los Cabos, mais tout de suite, il se retrouve dans un match contre le 9e favori quand même. C'est pas gagné d'avance. Félix voudra une revanche, évidemment, sur son match de la semaine dernière. Il nous a dit aussi en conférence de presse que cette défaite fraîche contre Norrie lui a permis d'emmagasiner certaines informations qui vont lui servir pour la suite. Donc, il a pas quand même mal joué. C'est une défaite en 3-7 contre Norrie à Los Cabos. Donc, je pense qu'il va être bien prêt pour le match d'aujourd'hui.
Oui, exact. Et justement, parlant de conférence de presse, Hugues, nos collègues Nicolas Bergeron et Abraham Santerre travaillent très fort toute la journée pour vous ramasser du contenu autant sur Instagram, sur Facebook, sur toutes nos plateformes du podcast et sur nos plateformes, vous pouvez retrouver, comme vous le voyez ici, le point de presse de Félix et Auger Aliassime. On va aller en écouter quelques minutes, Hugues.
Félix, félicitations. Avant le tournoi, tu disais que tu étais prêt, tu étais serein, calme, mais est-ce qu'il y avait quand même quelques papillons quand tu es entré sur le court central avec le bruit assourdissant?
Oui, c'est sûr que c'est difficile de se préparer à ça. Ce matin, quand je me suis levé, je me sentais très bien, reposé, relâché, tu vois, à la maison, juste en train de discuter avec ma famille tranquillement. Mon échauffement s'est très bien passé, puis tout semblait normal, mais c'est vrai que déjà quand tu sors, puis tu passes dehors, puis après dans le tunnel, tu sens quand même, c'est ça, une vibration, une excitation, une énergie qui est différente, que je ne retrouve pas nulle part ailleurs. Donc c'est vrai que ça me donne quand même des frissons puis des papillons, je suis quand même humain à la fin, puis je pense que n'importe qui vit ça sans quelque chose, quoi.
Salut Félix, félicitations. Beaucoup de fautes directes en première manche. Comment tu l'as vécu cette manche-là? Il avait l'air d'avoir eu beaucoup de hauts et bas, 25 fautes directes en tout là, dans cette manche-là.
Ouais, première manche difficile. C'est pas nouveau. Je veux dire, début de tournoi, un adversaire qui est pas facile à jouer, qui te fait travailler à chaque fois et qui te force un peu justement à aller à la faute. Mais je pense que j'avais quand même les bonnes idées, les bonnes intentions. L'exécution n'était pas là. Puis à partir de. C'est ça, j'ai eu un peu de chance, il m'a donné une double faute à 2-3, puis un autre point plus facile. J'ai réussi à revenir à 3-3, puis à partir de là, bon, c'était un peu mieux, je me donnais plus de chance, je servais mieux quand même, donc c'était un peu plus positif. Mais j'ai senti que, ouais, après, au deuxième set, j'avais quand même une vitesse en plus que je pouvais produire, que je suis allé chercher. Puis bon, ça fait 6-4, qui est très bien, mais ça aurait pu même faire 6-2 au mieux, quoi.
J'aimerais que tu reviennes sur le jeu qui a mis fin à la première manche. Comment tu l'as vécu? Puis après ça, tu t'es exposé à la foule en X. On dirait que tu as comme absorbé l'énergie. Ouais. Peux-tu revenir sur cette minute-là précisément?
Ouais, un très bon tie-break de ma part. Puis malheureusement, c'est ça, pas de chance sur ma première balle de set. Je fais un smash puis qui récupère bien. Puis bon, on se retrouve à 6-6. C'est pas une situation facile. Il y a beaucoup de tension dans l'air, mais c'est vrai que de gagner 7 sur un point comme ça, ça n'arrive pas souvent. En plus, ici, je sais pas, c'est comme si, j'ai l'instinct à parler, puis j'ai vraiment frappé un coup magnifique juste au bon moment. Donc, encore une fois, le bruit qu'il y a eu, je veux dire, l'énergie qu'il y a eu, c'était complètement unique. Donc, puis j'avais plus d'énergie pour juste je pouvais juste m'exposer comme vous avez dit au public puis juste apprécier le moment, donc c'est tout ce que j'ai senti là.
C'est le Félix, on sait, bon, il y a tête de série qui sont tombés aujourd'hui, t'es le favori de la foule, c'est important de garder la tête froide, puis comment tu vas t'y prendre?
Oui, c'est sûr que naturellement, bon, si tu te concentres sur ce qui est dit à l'extérieur, tout le monde aime se projeter, tu sais, dans la vie. Moi inclus à certains moments. Mais c'est ça le travail à faire, c'est ça le travail d'un joueur, c'est d'arriver justement, comme tu as dit, à garder la tête froide, rester tranquille. À la fin, tous les points qu'on joue, il faut les gagner nous-mêmes. Chaque point est à gagner, chaque match est c'est toujours un éternel recommencement, tu vois, à chaque jour. Donc, il n'y aura rien de facile, mais c'est vrai que oui, il y a une possibilité, comme à chaque semaine, il y a toujours des surprises, il y a toujours des tableaux qui s'ouvrent. Donc, j'espère que juste moi-même, je connaîtrai, c'est ça, un bon tournoi, que je jouerai de mieux en mieux, de match en match, puis j'irai très loin.
Comment t'attends que le match contre Norrie, qui t'a battu sur une passée contre le Scabas, quand qu'un gars te bat, quand tu l'affrontes pas longtemps après, t'aimes-tu mieux ça ou pour...
D'un côté, ce qui est bien gagné ou perdu, le fait de savoir jouer derrière moi, il y a quand même des repères qui restent assez frais. T'sais, je veux dire, dans ce match-là, oui, j'ai perdu, mais il y a des choses qui ont aussi fonctionné. Donc, puis ça, c'est frais dans ma mémoire. Donc, c'est vrai que alors qu'on s'était joué en début d'année deux fois, mais c'était un peu plus loin dans ma mémoire, j'ai dû regarder les matchs à nouveau. Mais le fait de l'avoir joué la semaine dernière, je pense que c'est ça. J'ai perdu, mais ça reste que c'est une bonne chose avant de se jouer cette semaine à Montréal. Mais un adversaire quand même très difficile. C'est un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. À chaque fois que j'ai joué, ça n'a jamais été facile. Oui, je connais notre record entre nous deux, mais ça reste que demain, c'est tout un tout nouveau match, puis il faudrait être prêt à faire l'effort.
Alors, Félix Auger-Aliassim, qui était en conférence de presse hier, a résumé un peu ce qu'on a dit, Hugues. C'est-à-dire que, bon, dans le cas de Cameron Norrie, ça ne sera pas simple, même s'il a une fiche positive contre lui, mais en même temps, peut-être un petit sentiment de revanche qui l'habite.
Assurément, puis exactement, je pense que les informations qu'il a prises à Los Cabos en demi-finale vont lui servir aujourd'hui, et ça devrait être un résultat positif aujourd'hui. J'ai confiance en Félix aujourd'hui. Jusqu'hier même, je dirais, Alex.
Oui, ben c'est positif parce que ce qu'on a vu dans fin de match qu'on disait tout à l'heure, c'est que bon, il a augmenté son niveau de jeu plus le match avançait, et ça, ben c'est super positif. Et puis ben avec la foule derrière. Mais bon, à partir de maintenant, il n'y a plus de match facile, c'est pas compliqué, là, ça sera compliqué d'ici la fin du tableau. Là, je veux qu'on parle du match que nous, on attendait avec beaucoup d'impatience hier. Oui, on attendait Félix, mais Nick Kyrgios contre Daniil Medvedev. Et là, j'ai envie de dire que Nick Kyrgios a causé la surprise, mais pas tant.
Non. Moi, les gens qui me parlent de surprise, on commence la discussion à ce moment-là parce que Kyrgios est le joueur en forme du moment. 3 titres en 2 semaines, Washington en simple en double et Atlanta en double. Et n'oubliez pas qu'il est finaliste de Wimbledon. La seule anomalie dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est les points. Parce qu'il n'a pas pu collecter ses 1000 points de finaliste à Wimbledon, ce qui fait qu'il aurait été plus haut au classement. Il ne se serait pas retrouvé dans un match de deuxième tour contre Medvedev. Donc, c'est pas tant de surprise que ça. Oui, je mettais moi aussi Medvedev favori quand même, mais c'est pas un upset comme on dit là. Donc, Kyrgios est très, très dangereux en ce moment. Il est content d'être là. Lui aussi est fatigué. On commence à entendre plusieurs joueurs qui parlent de fatigue en ce moment. Félix en a parlé un peu. Mais Kyrgios, c'est pas une si grande surprise que ça. Et ça a été un très beau match. C'était un clash de titans hier, donc en 3-7. Et Kyrgios a bien réussi, a bien géré son match. Il est resté assez calme. À part une balle qui est sortie du stade, comme dans les années 70 au baseball. Je sais pas si elle est tombée dans la piscine, mais elle nous a fait un coup de circuit à la fin du premier set. Mais Kyrgios, c'est pas une si grande surprise que ça.
Anthony Marcotte hier parlait d'un coup à la Rusty Staub pour les fans de baseball. Et il y a quelque chose que tu as dit hier. Tu as dit présentement, il est le meilleur joueur au monde, Nick Kyrgios. Et tu le penses encore?
Je le pense, tout à fait. Son classement ne le reflète pas encore, mais regardez sa séquence. Regardez le match qu'il a fait à Djokovic en finale à Wimbledon. Je pense qu'en ce moment, c'est le joueur le plus en forme du circuit. Souhaitons qu'il lui reste de l'énergie au US Open, mais s'il continue sur cette lancée-là, attention pour le US Open. Il joue très bien en ce moment, Kyrgios.
Alors, numéro 1 mondial sorti du tournoi, pas une si grande surprise que ce à quoi on pourrait penser a priori parce que à cause de l'adversaire. Par contre, il y en a un autre que c'est une plus grande surprise, Carlos Alcaraz, numéro 2, tête de série numéro 2. Aussi sorti du tournoi principal, du tableau principal à l'Omnium Banque Nationale.
Oui, et Carlos Alcaraz a dit une chose étonnante et candide en conférence de presse, je dirais. Il a dit « C'est la première fois que je sens cette pression-là d'être le deuxième favori d'un gros tournoi comme ça. I couldn't handle it. » C'est les mots qu'il a utilisés. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement honnête et candide. On ne va pas souvent entendre ça d'un athlète professionnel. Moi, j'ai aimé ça qu'il s'ouvre comme ça aux journalistes après le match. Il est tombé contre un Tommy Paul en forme. Là, c'est pas quand même un mauvais joueur. Tommy Paul, il a vraiment bien joué. Mais là, tout d'un coup, son statut quatrième mondial, de favori des tournois, beaucoup d'attention depuis qu'il est à Montréal. Vous avez vu durant les transports entre les vestiaires et les cours de pratique, les gens couraient derrière son card pour lui parler, avoir un autographe. Donc, il commence à sentir qu'il devient une superstar. Je pense que ça le rattrape un petit peu en ce moment, mais c'est une étape qui va passer. Ça va se placer très vite. C'est un excellent joueur, un grand joueur. Et même au niveau mental, il est extrêmement solide. Donc, on verra pour ce qui va arriver pour Cincinnati. Mais il commence à sentir le poids de son statut maintenant, Alcaraz.
Et ce qui est intéressant, c'est que, ben, d'une certaine manière, ça relativise la défaite de Vacek Pospisil contre Tommy Paul. Parce que là, il vient de battre Carlos Alcaraz, un des meilleurs joueurs sur la planète présentement. Alors, peut-être que la défaite de Vacek n'est pas si mal que ça, finalement.
Oui, je veux pas qu'on parle trop de Vacek. Là, c'était un 6-4-6-4, si je me trompe pas, le résultat contre Tommy Paul. Il a fait un bon match, mais Tommy Paul est un joueur dangereux. Il a fait un 7-6 à Nadal à Acapulco au mois de février, donc il peut pousser les meilleurs joueurs. Donc voilà pour Tommy Paul.
Alors, Tommy Paul va affronter Marin Cilic au prochain tour. Jamais 203, Hugues. Après la deuxième tête de série, on a perdu la troisième tête de série. Catastrophe pour les joueurs étoiles ici. 1, 2, 3. Tsitsipas, en fin de soirée, a perdu contre Jack Draper.
Ouais, on peut parler un peu d'hécatombe quand on regarde ça froidement. Là, favori 1, 2, 3. Ce qui fait que Kyrgios, je dirais, et Félix, moins dans la tête du public, là, vont devenir les grands favoris. Tsitsipas, c'est ma plus grande surprise pour moi hier. Alcaraz, OK, ça peut arriver. Medvedev, Kyrgios, je savais que c'était pour un match serré. Mais Tsitsipas, je pensais vraiment qu'il réussirait à passer à travers Jack Draper, qui a fait un excellent match en passant. 7-5, 7-6, grand gaucher britannique qui est en pleine ascension aussi au niveau du classement. Mes résultats surprises, le tard aux petites heures du matin.
Quand même, le tournoi, on souffrira pas tant que ça parce que Félix est encore là, Nick Kyrgios est encore là. Il reste encore beaucoup d'excellents spectacles à venir d'ici la fin de la semaine. Hugues, pendant que je donne l'horaire de ce qui va se passer aujourd'hui à Montréal, je vais te demander de t'installer avec notre invité, Andréane Martin, parce que dans les matchs à surveiller aujourd'hui, il y aura Casper Ruud contre Roberto Bautista Agut. Excellent match en début de journée, ce sera le premier match. On parle du finaliste à Roland-Garros. Et Roberto Bautista Agut, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est un excellent joueur sur surface dure également. Et il a fait un excellent travail contre... il avait fait tout un 5-7, lui, contre Félix Auger-Aliassime au US Open. Nick Kyrgios suivra avec Alex de Minaur. Confrontation toute australienne. Ça devrait être un excellent match. Cameron Norrie, troisième match de la session de jour contre Félix Auger-Aliassime. Et on terminera la soirée avec Gaël, mon fils, et Jack Draper, le tombeur de Stefanos Tsitsipas, et Yannick Sinner et Pablo Carreño Busta. Ça, c'est le programme de la journée à Montréal. On accueille maintenant une grande dame du tennis, Andréane Martin, dont tu nous as parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Hugues, bienvenue sur la ligne une fois de plus, Andréane.
Merci beaucoup.
Hugues, tu nous as fait un peu son profil tout à l'heure, mais peut-être revenir avant qu'on rentre dans des questions un peu plus précises sur le rôle précis de Mme Martin à Tennis Québec.
Oui, juste un petit... Donc, une ex-championne canadienne, il faut le dire, une grande dame du tennis québécois qui se retrouve dans un poste qui lui va très bien, selon moi. Je pense que c'est une très bonne nomination, qui prend en charge le développement du tennis au Québec pour la suite. D'avoir une femme à la tête de Tennis Québec, ça me fait très plaisir aussi. On a reçu hier Nicole Nobert de Montréal, qui est une pionnière aussi dans la gestion du tennis au Québec. Ça, c'est une très bonne nouvelle que des femmes soient dirigeantes dans ces postes-là en ce moment. Et c'est un grand changement de garde en ce moment à Tennis Québec avec le départ à la retraite de Régent Genois, de Jean-François Manibal. Donc, une nouvelle période se met en place avec un nouveau conseil d'administration et une nouvelle DG. Donc, Andréane, très content de te recevoir aujourd'hui. Parle-nous un peu de la mission, de ton rôle là, pour les prochaines années à Tennis Québec.
Parfait. Donc, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler tennis, puis principalement, je ne vous le cacherai pas, de Tennis Québec. Donc, dans le fond, la mission de Tennis Québec, c'est de développer puis d'encadrer le tennis partout au Québec de façon sécuritaire, dans le but que les gens adoptent un mode de vie sain et actif. Parce qu'on croit vraiment que le tennis, c'est le sport de toute une vie.
Ouais.
On a des activités là, qui commencent dès le primaire, donc dès la maternelle. Puis on va, dans le fond, jusqu'aux 85 ans et plus avec des tournois vétérans. Donc, pour Tennis Québec, là, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment d'encadrer et développer le tennis dans toutes les sphères de la pratique sportive et pour tous les âges.
Parle-nous un peu de la différence entre le rôle de Tennis Canada et de Tennis Québec. Souvent, les gens, j'ai l'impression, ont de la difficulté à tracer une ligne entre les différents paliers, Montréal, Tennis Québec, Tennis Canada. Alors, votre champ d'action, il se différencie comment celui de Tennis Canada?
Parfait. C'est certain qu'on a beaucoup d'activités avec Tennis Canada, donc notamment, par exemple, pour la formation des entraîneurs.
Ouais.
Donc, pour la formation des entraîneurs, c'est Tennis Canada qui s'occupe des curriculums. Tennis Québec va s'occuper là, des niveaux instructeurs, professionnels de club 1, 2 et 3. Et par la suite, Tennis Canada prend la relève pour les niveaux plus élites au niveau des entraîneurs. La grosse différence, je dirais que tout ce qui se passe, dans le fond, au Québec, de niveau provincial,
ouais.
C'est Tennis Québec qui organise.
Les régions.
Exactement. Donc, tous les tournois là, provinciaux que vous voyez, les tournois régionaux, c'est Tennis Québec. Tandis que Tennis Canada, on s'occupait plus des tournois nationaux. Puis, comme vous le savez, les tournois internationaux. Ça, je pense que c'est vraiment la grosse différence.
Très bien. Parle-nous, Andréane, s'il te plaît, des grands chantiers que tu as sur la table en ce moment pour les prochaines années avec ton nouveau CA aussi.
C'est pour les prochaines années parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de projets. On a un tout nouveau CA avec une femme à la présidence de Tennis Québec. Donc, on a une DG femme et on a maintenant une présidente femme aussi, c'est Christiane Bergevin,
oui.
Qui est vraiment très, très connue dans le monde du tennis, a déjà siégé sur le Conseil de Tennis Canada pendant plusieurs années. Ancienne journaliste aussi pour le tennis.
Oui.
Donc, on a eu notre première rencontre de conseil d'administration hier. On a profité de l'Omnium pour se rencontrer tout le monde pour une première fois. Puis, on a commencé justement à établir là, des chantiers. Parmi ceux-ci, c'est certain qu'on a besoin d'un centre intérieur pour nos activités, nos 15 équipes du Québec, nos formations. Donc, ça va être un des chantiers. Aussi, on aimerait vraiment que le tennis soit joué à l'année longue partout au Québec, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Voilà.
Il y a plusieurs régions, Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue, ils n'ont pas de terrain. Donc, les gens jouent au tennis 4-5 mois par année, puis ensuite, c'est terminé. Donc, ça, c'est vraiment... on veut développer le tennis partout au Québec et ça va être vraiment un gros chantier pour nous.
Oui, donc les infrastructures sont un élément important.
C'est primordial, je pense, pour le tennis est super populaire.
Et de plus en plus.
Pas juste là, dans les grandes régions, mais dans les plus petites régions aussi, les régions plus éloignées. Puis il faut absolument des infrastructures pour être capable là, que cette croissance-là continue finalement.
Tout à fait. Est-ce que tu réussis à jouer encore un peu? Je sais qu'on a échangé quelques balles plus tôt cette saison. Est-ce que tu réussis à mettre...
Le plus possible. C'est vrai que j'essaie de jouer 2-3 fois par semaine. Puis honnêtement, j'aime tellement ça jouer au tennis que c'est pas parce que je manque de temps, parce que je ferais du temps pour jouer au tennis, ça c'est certain. C'est plus, j'ai passé ma vie sur les terrains. Mon corps, je pense que mon corps est assez fatigué, donc 2-3 fois par semaine en ce moment, on dirait que c'est ma limite.
Mais bon, Reda, tu t'en sors très bien, je te le confirme. Parle-nous un peu des tournois de Toronto, Montréal, comment tu vois cette édition de l'Omnium Banque Nationale 2022?
C'est certain qu'à Montréal, il y a beaucoup de surprises.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de surprises, mais je trouve qu'il y a tellement de profondeur, il y a tellement des bons matchs. On regardait hier Alcaraz contre Tommy Paul. Puis oui, Alcaraz s'est fait sortir, mais c'était un super bon match. Le niveau était élevé. C'était vraiment intéressant comme match. Puis je trouve que ça nous fait aussi découvrir d'autres joueurs qu'on voit moins souvent,
oui.
Qu'on porte moins attention. Fait que ça, j'aime ça. J'aime ça découvrir des nouveaux joueurs. J'aime ça voir les jeunes arriver aussi. Ce qui est le fun aussi à Montréal, ben, c'est que ça donne de la place à quelqu'un comme Alexis Gallardo.
Oui.
On a parlé beaucoup d'Alexis cette semaine.
Avec raison. Oui,
il a fait ouvrir les yeux à plusieurs personnes. Nous, on le connaît, ça fait longtemps, Alexis, mais la majorité des gens n'ont jamais entendu parler d'Alexis Gallardo. Donc, c'est vraiment le fun. Pour ce qui est du tournoi de Toronto, ben oui, c'est décevant, Léla. Sauf que je pense qu'elle revient d'une quand même grande grosse blessure. Fait que c'est un petit peu normal pour Léla. Bianca réussit toujours à
s'en sortir. Du classique Bianca.
Exactement. Ça fait que ça, c'est super excitant. Puis je regardais aussi là, les foules à Toronto. Ça a l'air, c'est aussi rempli qu'à Montréal. Là. C'est assez impressionnant. Là, c'est le fun.
Peut-être pour conclure, parle-nous un peu de la retraite annoncée de Serena Williams et de l'impact qu'elle aura eu sur le tennis féminin et le tennis en général. Et je dirais même le sport en général.
Oui, ben c'est certain que c'est tout le monde, la majorité des gens s'entendent pour dire que c'est la GOAT.
Ouais.
Excusez le terme.
Greatest of all time.
Voilà. Ouais. Puis, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis ça va au-delà du tennis. Ce qu'elle fait pour l'équité, ce qu'elle a fait aussi pour la communauté noire, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment ouvert le chemin. Puis je pense qu'elle a été vraiment un modèle. Tu regardes Coco Gauff, par exemple. Coco Gauff n'a que des loges pour Serena et Venus Williams. Puis hier soir, c'est ça, j'ai regardé là, à Toronto, lorsqu'ils l'ont... Ils l'ont honoré sur le central, là, c'était assez émouvant. Donc, je pense que dans le prochain mois, avec le US Open qui arrive, là, ça va être beaucoup dommage pour Serena Williams, puis avec raison.
Oui, 100% d'accord. Andréane, je te remercie beaucoup. Tu es une amie du podcast, tu reviens quand tu veux. Donc, au plaisir de t'accueillir à nouveau et de frapper des balles avec toi un peu plus tard.
Merci beaucoup, Hugues.
Merci beaucoup, Andréane. C'est toujours un immense plaisir de vous avoir avec nous, puis ben, vous ne gênez pas pour passer nous voir quand vous voulez. C'est vraiment un immense plaisir.
Merci, Alexandre.
Hugues, bon, on parlait de Toronto. Parlons-en de ce qui va se passer à Toronto, mais juste avant, je veux qu'on revienne sur ce qui s'est passé du côté de Serena Williams, parce que tu viens dans hier, en réfléchissant à la question, je me disais, bon, sur le coup, c'est peut-être qu'elle vole le narratif d'une certaine manière, mais en même temps, je trouve ça intéressant que les gens puissent lui rendre hommage pour une dernière fois. Bon, le sachant, pouvoir dire, bon, ben parfait, on t'applaudit, on te rend l'hommage pour une dernière fois qu'on peut. Et ça, c'est la partie intéressante, je trouve, de l'avoir annoncé.
Ouais, j'ai un peu, je dirais que ma position a évolué un peu depuis hier. Moi, j'ai dit, c'est un peu dommage qu'elle vole tout le narratif pour le reste de l'été, mais en même temps, c'est une annonce qui fait que les gens vont dire « Oh, peut-être que je devrais prendre des billets pour aller la voir. » Donc, si ça remplit les stades cet été, je pense que c'est une bonne chose aussi. Et je pense qu'elle le mérite aussi. Donc, cette sortie de la grande dame du tennis féminin qui se prépare en US Open, on la connaît, elle est extrêmement compétitive. Si elle peut aller chercher son 24e Grand Chelem, elle va le faire, évidemment. Elle a toujours ça en tête, je suis certain. Je pense qu'elle n'a pas abdiqué cette possibilité-là encore. On sait que ça va être difficile. On l'a vu hier contre une joueuse de haut niveau, Belinda Bencic. Ça ne sera pas évident, mais je pense que le fait que maintenant, on sait que c'est sa tournée d'adieu ou sa série d'été d'adieu, et on a vu toutes les émotions sur le central hier. Donc, je suis un peu plus à l'aise avec le fait qu'elle l'annonçait si vite et que ça prendra place dans les prochaines semaines d'ici l'US Open. C'est normal dans une certaine mesure.
Revenons à nos Canadiens, Hugues Léger. Commençons avec Leila Annie Fernandez, parce que son tournoi à elle, il est terminé. Défaite de 7-6, 6-1 contre Béatrice Haddad-Maia. Pas la joueuse qu'on connaît le plus. Par contre, quand on regarde sa fiche, 24e mondiale, et c'est une fille qui a connu une excellente saison sur gazon. Elle a fait des résultats très probants. 2 titres à Nottingham et Birmingham, si je me souviens bien. Elle avait perdu contre aussi Leila Annie Fernandez à Monterey, alors qu'elle avait remporté ce tournoi-là. Mais c'était pas même si c'est pas, bon, entre guillemets, la joueuse la plus high profile, c'était pas un adversaire facile pour Leila Annie Fernandez hier.
Non, non, une 24e mondiale, quand Leila, oublions pas, elle n'a pas joué de match depuis Roland-Garros. Là. Elle tapait sur un mur avec une botte de réhabilitation pour sa fracture de stress au pied il y a encore quelques semaines. Moi, j'étais content de l'avoir passé le premier tour. Et sa victoire au premier tour, normalement, aurait été beaucoup plus facile. Finalement, ça a été un 3-7. Elle n'a pas joué un grand match, mais elle a trouvé une façon, comme Leila réussit tellement souvent, elle est tellement bagarreuse et combative. Donc, c'est pas un mauvais tournoi pour Leila. Je pense que là, elle va pouvoir aligner les matchs d'ici l'US Open. Elle va reprendre là, un rythme plus normal, disons, pour une joueuse de son calibre. Donc, il n'y a pas tant de déception que ça pour Leila.
D'accord avec toi. Et je vais te dire que je vais me ranger du côté de Iga Świątek aujourd'hui parce que c'est elle qui pourra venger Leila Annie Fernandez. C'est elle qui porte le nom du stade ici. Et aussi, c'est elle que j'ai désignée comme championne dans mon pool. Alors, go Iga Świątek ce soir. Ouais.
Après la Coupe Roger, on a le stade IGA IGA maintenant. Bon,
ouais, IGA Swiatek.
Mais bon, c'est pas pour IGA Swiatek, mais elle le mériterait peut-être au rythme où elle allait en début de saison. Moi, j'aurais aimé ça avoir une confrontation entre IGA Swiatek et Leila. J'avais vu le tableau, je dis, oh, ça serait vraiment le fun qu'elle s'y rende, mais bon, ça arrivera pas. Ça sera pour une autre fois.
Et aussi, c'est une ancienne championne à Repentigny. Alors, ben voilà, oui. On a toutes les raisons d'encourager IGA Swiatek aujourd'hui. No cheering on the press box, mais qu'est-ce que tu veux, ce sera ça. Bianca Andreescu contre, là, aujourd'hui, elle va affronter Zhang, mais hier contre son adversaire, c'était pas simple. Mais le résultat est intéressant.
Moi, j'aime beaucoup ce que je vois de Bianca depuis ces deux matchs. Donc, elle passe en ronde des 16, huitième de finale aujourd'hui. Après un premier match un peu dramatique, une situation qu'on semble revoir assez souvent avec Bianca, elle passe à travers son premier tour. Alizé Cornet, grosse commande, qui venait de battre Caroline Garcia, qui est une joueuse en forme, qui a eu un titre il y a une semaine, qui a battu Swiatek il y a pas très longtemps. Exact. Donc, Bianca est en forme et elle avait l'air beaucoup plus fraîche physiquement. Hier. C'était moins compliqué, elle semblait moins peinée sur le terrain qu'au premier tour. Donc, encore une. Et Bianca, comme je disais sur les ondes du 91.9 ce matin, opportuniste, quand elle a une opportunité de terminer un point, terminer un match, elle a une façon de le faire comme une grande championne qu'elle est. Donc Bianca, ben, qui sait, huitième de finale, la jeune chinoise Zheng, très bonne joueuse, ça sera pas évident encore, mais Bianca joue chez elle, les émotions sont très positives en ce moment. Souhaitons que ça se poursuive pour Bianca. Là, je suis très content de sa route jusqu'à maintenant.
En tout cas, ce qui est rassurant dans le cas de Bianca Andreescu, c'est sa tenue sur le terrain. Elle joue des longs matchs, ça ne semble pas trop compliqué en termes de déplacement sur le terrain. La balle semble bien être frappée. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, dans le cas de Zheng, tu en parlais, c'est une jeune joueuse qui commence à percer sur le circuit. Elle est autour de la 50e mondiale, mais elle n'a que 19 ans. Alors, c'est un bel espoir chinois. Elle a gagné des tournois un peu plus bas niveau à Orlando et Valence un peu plus tôt cette année, mais elle a fait une demi-finale à Melbourne, le tournoi préparatoire aux internationaux de cette année. Évidemment, elle n'a pas fait une demi-finale à l'Australian Open, mais quand même, un beau quatrième tour récemment à Roland-Garros. Alors, ce ne sera pas évident parce qu'elle affronte peut-être une des vedettes montantes sur le circuit, mais en même temps, la performance, elle a été rassurante. On peut avoir espoir. On peut commencer à monter nos attentes.
Oui, parce que hier, moi, ça m'a rassuré. Là, encore une fois, Alizé Cornet a une assez bonne saison. C'est une joueuse difficile, beaucoup d'expérience aussi. Et dans le troisième set, bien qu'elle a dominé quand même, elle l'a breaké assez tôt. Ça s'est resserré un peu vers la fin, mais elle a réussi à terminer le match. Donc, elle est en bonne posture, Bianca Andreescu, à Toronto en ce moment.
Ça serait intéressant de surveiller les autres matchs Hugues Léger qui vont se disputer sur le central à Toronto. Encore une fois, on a un programme à Toronto, là, ben, ici aussi, mais à Toronto, depuis le début, les programmes sont complètement fous du côté des femmes. Encore une fois, Simona Halep contre Teichmann, ce sera le premier match, une grande championne du tournoi au Canada. Elle l'a gagné à quelques reprises. C'est une championne de Grand Chelem, ancienne numéro 1 mondiale, contre Teichmann, qui est un bel espoir sur le tennis mondial. On en parlait tantôt, Swiatek qui voudra, pour nous venger Leila Annie Fernandez. Merci pour ça, IGA Swiatek. C'est Bianca Andreescu qui va suivre. Et Belinda Bencic qui aura montré au Torontois le dernier match de Serena Williams à Toronto. Elle va affronter El Garmini Muguruza. Hâte de voir ce match-là parce que Muguruza, elle est dure à prévoir dans les. C'est une fille qui peut gagner des grands chelems, mais qui n'a pas toujours la constance dans ses résultats dans les dernières années. On parlait de Coco Gauff, elle sera aussi sur le central contre Sabalenka, et ça va être un match intéressant, pas à peu près. Moi, je le dis, Coco Gauff, je l'ai en finale dans mon tableau, mais contre Sabalenka, une des joueuses les plus puissantes sur le circuit, ça risque d'être compliqué, mais Coco Gauff, je sens que les résultats, ça s'en vient. Les résultats qu'on attend depuis longtemps, ça s'en vient pour elle.
Puis, oublions pas qu'elle était finaliste à Roland-Garros, là. Donc, Coco Gauff arrive au moment où Serena se retire. Il y a comme une passation, là, du côté américain féminin, là, qui est intéressante à voir de ce côté-là. Et à part Anna Kontaveit, qui a été sortie par Teichmann, justement, toutes les favorites sont encore là. Donc, tableau en or du côté de Toronto encore, là. Sakkari est toujours là, que j'ai mis gagnante d'ailleurs dans mon pool. Si vous avez fait le Bracket Challenge de Tennis Canada, si vous l'avez pas fait, il est un peu trop tard, mais suivez-le quand même, c'est toujours intéressant de voir comment on progresse, mais que des bons matchs aujourd'hui à Toronto.
Autre match intéressant à suivre, ce sera celui de Jessica Pegula contre Camila Giorgi, parce que c'est une reprise de la demi-finale ici même à Montréal l'année passée. Et bien évidemment, Camila Giorgi l'avait emporté puisqu'elle a remporté le tournoi. Alors peut-être Pegula voudra prendre sa revanche pour cette défaite-là.
Tombeuse de Raducanu, je pense qu'il faut le dire, parce que Raducanu doit défendre beaucoup de points d'ici l'US Open, surtout l'US Open. Si jamais elle ne défend pas son titre, encore une fois, les chances sont quand même assez minces si on voit ses performances de cette année. Je crois qu'elle a 14 défaites contre des joueurs moins bien classés qu'elle depuis sa victoire au US Open. C'est compliqué. Donc, perdre presque 2000 points, là, c'est ce qui risque d'arriver au US Open. Ce serait une chute au classement importante. Mais c'est le fun de voir Camila Giorgi qui progresse aussi à Toronto, qui est championne en titre. Je pense qu'elle veut défendre son titre. Donc, j'ai hâte de voir la suite pour Camila Giorgi, l'italienne.
Alors, autre programme complètement spectaculaire à Toronto. Hugues, je te remercie une fois de plus pour cet épisode de Café OBN. On salue Nicolas Richard, on lui a donné un petit congé. Là. Nico travaille très fort, alors a besoin d'une petite journée de congé. Mais on te salue quand même, Nico, à la maison. Et puis, nous, on se retrouve demain autour de 10h. Puis venez jaser avec nous si vous êtes en direct. Là, venez nous voir. Puis nous, on est en direct du studio Mazda. Des sources du groupe Delary. Alors, Hugues, bye bye, puis on se retrouve demain matin.
Bon tennis, tout le monde.